Mesdames et messieurs, bonsoir. La commission électorale indépendante s'achemine petit à petit vers la fin de la publication des résultats provisoires et partiels du second tour de l'élection présidentielle. Selon cette institution, il reste seulement à publier les résultats provisoires de vote de quelques 10 circonscriptions électorales sur les 169 existantes. Cependant, dans ses lettres adressées à la CEI, Jean-Pierre Bemba, un des deux candidats présidents à cette élection, conteste la publication des résultats provisoires de certains bureaux de vote. Il a demandé à la CEI de vérifier leur conformité. Alors, que pensent déjà certains de nos auditeurs à ces sujets? Théon Toumba de Mbandaka Équateur estime que la CEI a tout intérêt à examiner et à répondre avec impartialité et honnêteté aux requêtes de chaque camp pour éviter des troubles au pays. Franck Bella de Goma au Nord Kivu estime que ces contestations ne sont que des alibis que les membres de l'Union pour la Nation cherchent pour ne pas reconnaître leur défaite. Ils doivent accepter sportivement le verdict. Georges Weteche de Goma également au Nord Kivu dit que le taux de participation était très faible. Il s'est dit scandalisé par les résultats publiés par la CEI. Patrick Katabaï de Mbujimayi Kasa-Oriental invite l'Union pour la Nation à être objective et la CEI à être précise dans la publication afin d'éviter le dérapage du processus et garantir la paix aux Congolais. Enfin, Gustave Minga de Kananga Kasa-Occidental dit ceci, nous sommes patients et nous espérons que la CEI ne va pas nous décevoir le jour J. Voilà les quelques réactions de nos auditeurs qui nous mettent dans le bain de cette émission qui a comme invité M. Chérubin Okende, membre de l'Alliance de la majorité présidentielle, la plateforme qui soutient la candidature de Joseph Kabila, Madame Annie Saloumou, coordonnatrice adjointe de l'Union pour la Nation, la plateforme qui soutient la candidature de Jean-Pierre Bemba, M. Dieudonné Mirimo, rapporteur de la Commission électorale indépendante. Bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Bonsoir à vous tous qui nous suivez et bonne condition d'écoute sur Radio Okapi. La Commission électorale indépendante poursuit la publication des résultats provisoires et partiels du second tour de l'élection présidentielle. Une opération entamée, comme vous le savez, depuis le samedi 4 novembre. À ce jour, les résultats de près des 160 circonscriptions électorales sur les 169 sont déjà publiés. Et faisons un petit point avec Freddy Lufuluabo.
La publication des résultats provisoires et partiels tend vers la fin. Selon la CEI, ces résultats seront progressivement affichés sur son site internet. Pour l'instant, la CEI a déjà autorisé l'affichage des résultats des 179 circonscriptions électorales sur les 189 que compte le pays. Parmi les 10 circonscriptions restantes, il y a 4 au Kasaï occidental, Chikapaville, Ilebo, Kamonia et Kazumba, 3 au Kasaï oriental, Lodja, Lomela et Kole, 2 à l'équateur, Diolou et Bumba, et enfin une seule circonscription au Katanga, celle de Kasenga. Cela dit, les résultats d'environ 2800 bureaux de vote sur un total de 50 045 ne sont pas encore publiés. Au stade actuel de la publication des résultats du second tour de l'élection présidentielle, une question se pose. Quelles dispositions sont prises pour éviter que l'un ou l'autre candidat ne puisse s'autoproclamer vainqueur avant la date du 19 novembre?
Voilà, c'est l'une des questions que nous allons nous poser ce soir. Mais Monsieur Dieudonné Mirimo, nous commençons par vous. Vous êtes donc rapporteur de la Commission électorale indépendante. À moins que vous n'ayez dans l'entretemps publié d'autres résultats, sont-ils là les résultats provisoires qui restent encore à publier?
Effectivement, jusque aujourd'hui, nous avons déjà autorisé l'affichage des 179 circonscriptions électorales sur les 189. Ici, nous comptons les territoires, les villes et les communes pour la ville de Kinshasa. Et d'ici là, nous allons donc terminer avec les 10 circonscriptions qui sont restées. Votre collègue vient de les énumérer. Et immédiatement après, nous allons pouvoir procéder donc à l'annonce des résultats provisoires, mais il faut indiquer déjà que la délibération a commencé depuis hier dimanche. Et aussitôt terminé, nous allons annoncer les résultats provisoires.
Est-ce pour nous dire que la Commission électorale indépendante a déjà compilé tous les résultats?
Non, jusqu'à aujourd'hui, nous avons atteint un taux de compilation de 99,38%, soit 49 735 bureaux de vote. sur les 50 045 bureaux. Et donc, il reste autour de 310 bureaux de vote à compiler pour terminer l'ensemble des bureaux de vote qui ont fonctionné sur l'ensemble du territoire national.
Oui. Madame Annie Saloumou, il ne reste plus qu'à publier les résultats, donc, comme vient de nous les dire ici M. Dieudonné Mirimo, de quelques 10 circonscriptions électorales. Quelle analyse vous faites par rapport au travail qu'a fait la Commission électorale indépendante, qui en même temps consiste à compiler et à publier les résultats?
Oui, madame, nous venons de suivre, voilà, les rapporteurs qui disent qu'il reste 10 circonscriptions, mais je peux rappeler à l'opinion ici que notre candidat Jean-Pierre Bemba Gombo a déjà adressé 5 lettres de protestation au président de la Commission électorale indépendante. Dans sa première lettre, il était en train de dénoncer les anomalies et les irrégularités. Dans la deuxième lettre, il a été en train de dénoncer les infractions, infiltrations des faux bulletins de votre centre de compilation de Bandundu. La troisième lettre, il était en train de dénoncer l'ampleur des votes par dérogation. Dans sa quatrième lettre, il dénonce le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont concernés dans la liste des omis. Et dans la cinquième lettre, malheureusement chez moi, le courant vient de partir, on parle de la falsification de certains bulletins. Donc voilà les 5 lettres un peu que notre candidat a adressées à la CEI. C'est pour montrer qu'il y a beaucoup de choses à redire dans ce que la CEI est en train de publier aujourd'hui. Et nous, en responsables, nous avons préféré adresser des lettres à la CEI et nous attendons des réponses par écrit de la part de la CEI. Et nous nous sommes entendus, nous sommes en train de travailler à l'intérieur dans une commission où la CEI participe aussi. Nous pensons que dans cette commission-là, nous nous sommes dit au fur et à mesure que l'un des camps avant donne des protestations, ça doit être examiné, la CEI va répondre. Donc oui. Jusque-là, nos 5 lettres, nous n'avons pas encore eu officiellement une seule réponse de la CEI. Donc nous disons, dans ce qu'il est en train de publier, il y a à boire et à manger.
Oui, nous sommes avec M. Dieudonné Mirimo, effectivement, qui est rapporteur de la Commission électorale indépendante dans ses studios. Il va sûrement répondre à toutes ces questions que vous avez soulevées. Mais avant cela, M. Chérubin Okende, vous êtes membre donc de l'Alliance de la majorité présidentielle, la plateforme qui soutient la candidature de Joseph Kabila. Ce travail de la CEI évolue-t-elle normalement et dans les délais?
Je crois que nous devons tous être astreints à un devoir de loyauté. Loyauté vis-à-vis de nous-mêmes, loyauté vis-à-vis du processus et loyauté vis-à-vis des institutions qui sont en train d'œuvrer pour que nous puissions obtenir réellement notre démocratie. Donc, astreint par ce devoir de loyauté, je dois vous dire, madame, parce que nous sommes en train de suivre le travail de la Commission électorale indépendante, nous apprécions aussi, autant que des millions de Congolais, le travail qui est abattu par la Commission électorale indépendante. Donc je crois que à ce stade, nous apprécions ce travail, d'autant plus que, quelque part, la Commission électorale indépendante a eu la précaution de mettre sur pied une autre commission ad hoc, là où on retrouve nos compatriotes de l'Union pour la Nation et aussi des représentants de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Tout cela devrait concourir à quoi? À consolider la transparence dans l'évolution du scrutin. Je pense que à ce stade, il ne faudra pas qu'on cherche des dérobades.
Oui, évoluons. Monsieur Dieudonné Mirimo, vous avez suivi donc les revendications faites par l'Union pour la Nation et même cet rappel fait par Madame Annie Saloumou, qui est membre de cette plateforme. Et même nos auditeurs se posent plusieurs questions. J'ai d'abord ici Dieu Lims de Kinshasa qui dit j'ai l'impression que la CEI ne prend pas en considération les réclamations de l'Union pour la Nation. Ne voit-elle pas que cela risque de dégénérer? Mwanga Mouissa de Boutembo Nord qui vous, quelle est la réponse que la CEI réserve à l'Union pour la Nation, pour le recours? Voilà, M. Dieudonné Mirimo.
Je confirme ici qu'effectivement, l'Union pour la Nation a adressé à la Commission électorale indépendante 5 requêtes. De ces 5 requêtes, la Commission électorale indépendante a déjà répondu à 2 de ces requêtes.
Officiellement
depuis hier, avec accusé de réception.
Mais pourtant, Madame Annie Saloumou
nous dit peut-être qu'elle n'est pas informée, donc... Il n'a qu'à s'informer auprès des autres membres qui sont dans le noyau de l'IEN. Donc, c'est par écrit que les réponses ont été données. Souvenez-vous qu'il était question de procéder à une vérification ou une contre-vérification à Chimbulu pour la circonscription de Dibaya et à Kananga pour les CELSER de Kananga. devant les témoins des deux candidats et cette vérification a été faite. Et les conclusions de ces vérifications font état que les résultats que nous avons rendus publics sont les mêmes qui ont été obtenus après la contre-vérification. Et aujourd'hui, il était question qu'on procède à une vérification à Bandunduville, à Lodja et à Kibombo. Et nous attendons donc les conclusions de ces vérifications-là et nous sommes convenus que demain, nous allons rendre public, enfin remettre au mandataire des deux candidats, les tableaux généraux sur les dérogations qui ont été accordées sur l'ensemble du territoire national avec détail par bureau. Donc c'est demain que ça sera fait, mais d'ores et déjà, je peux donner à titre indicatif parce qu'il est important que les auditeurs puissent être fixés, sans entrer dans les détails, que nous avons, conformément à l'article 59 de la loi électorale, nos agents dans les bureaux de vote, ils étaient au total 250 225, ils ont voté par dérogation. Nous avons les témoins des deux candidats à l'élection présidentielle, 200 180. Nous avons les témoins des députés provinciaux, ils étaient 356 277. Et nous avons les observateurs nationaux, ils ont été accrédités au nombre de 111 294, sans oublier les journalistes nationaux, les conjoints des policiers et militaires, ainsi que les fonctionnaires en mission ou en mutation.
Donc vous voulez expliquer par là que ceux-là qui ont voté par dérogation faisaient partie de ces nombres-là. Mais la question en fait de l'Union pour la Nation, si j'ai bien suivi les lettres écrites par le vice-président Jean-Pierre Bemba, parlait du fait qu'il y a une concentration dans un lieu donné des votes par dérogation. Est-ce que tout ce monde-là se trouvait dans un lieu donné en ce moment-là?
Pas dans un lieu. Nous réservons la primeur de la réponse à cette question à la commission mixte qui siège chaque jour à midi. Et nous allons donner, comme je viens de le dire, les détails par bureau. Il n'est pas à craindre qu'il y ait des surprises par rapport à ce qui est en train d'être dit, mais attendons demain lorsque le tableau sera rendu public, ça va nous éclairer sur l'ensemble des dérogations qui ont été accordées sur l'ensemble du territoire national.
Oui, Madame Annie Salomou, vous avez suivi, la commission électorale indépendante a déjà répondu à deux des requêtes envoyées par votre camp. Est-ce que vous êtes satisfaite par les réponses données par la commission électorale indépendante?
Madame, je confirme ici qu'aujourd'hui, notre candidat, le vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu réunion avec le collège des conseillers politiques où il a dit clairement qu'il n'a pas encore reçu ses deux lettres. Peut-être qu'ils ont déposé aujourd'hui, mais je vous dis, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, nous n'avons pas encore ces deux lettres-là. Nous attendons de prendre connaissance de ce qu'ils ont donné comme élément de réponse et je crois que nous réagirons parce que je crois que ce que nous apprenons à la radio, à la télévision, que ce n'était pas fondé, ce n'est pas correct.
Oui, mais madame...
Nous pouvons vous signaler ici que notre centre de compilation s'est fait sur base des procès-verbaux amenés par nos témoins. Et ces procès-verbaux sont c'est une copie que nos témoins ont reçue à partir des bureaux de vote. Donc ce sont des documents de travail que la CEI utilise en même temps. Donc nous attendons d'abord de prendre connaissance de ce qu'ils ont donné comme réponse et je crois que nous allons réagir.
Oui, mais madame, à moins qu'il y ait un problème au sein de l'Union pour la Nation, alors qui aurait accusé réception pour le compte de votre plateforme de ces deux réponses envoyées par la commission électorale indépendante?
Madame, nous n'avons pas la preuve qu'il y ait quelqu'un qui a accusé réception, à moins que le mairie nous l'éprouve à partir de son téléphone et nous montre que c'est elle qui a signé. Voilà, je vous assure qu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler là-bas, notre vice-président, notre candidat n'a pas encore ces lettres-là. Oui. Et même si ils ont déposé peut-être ce soir, c'est possible, mais en tout cas, il n'y a pas ça.
Oui, monsieur,
je crois que ça ne poserait pas un problème. Nous allons réagir, nous allons prendre connaissance.
Oui, madame Annie Salomou, nous voyons avec monsieur Dédonné Mirimo qui a effectivement reçu, qui a accusé réception de vos deux réponses.
Je ne voudrais pas polémiquer autour de ça.
Oui.
Il s'est fait malheureusement que c'est moi-même qui ai déposé la lettre et on m'a accusé réception. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et j'ai les documents.
Vous avez déposé où?
Hein?
Vous avez déposé ça où?
Les délégués de l'IN qui siègent avec nous à la réunion de midi, celui qui a accusé réception, l'honorable Sessanga, on peut lui demander, c'est lui qui a accusé réception.
Voilà, donc nous n'allons pas revenir sur cette question. Alors, madame, il y a plusieurs auditeurs qui se posent des questions en ce qui concerne donc les revendications de l'Union pour la Nation. Et il y en a même qui se demandent pourquoi c'est toujours l'Union pour la Nation qui fait ces genres de revendications. Il y a par exemple un auditeur, Jean-Pierre Amazani de Kalemie au Katanga, qui dit ceci. Bemba multiplie des contestations alors qu'à l'Équateur, il y a des grandes irrégularités en sa faveur. Dans les villes de Lissala et Libengue, les taux de participation est de 100,84 et 101,24%. Son crime n'est-il pas celui du voleur qui crie au voleur? Un autre auditeur qui s'appelle Lukalo Djemba, il est de la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Il nous a écrit ceci, je cite, « L'Union pour la Nation peut-elle nous expliquer ce qui traduit ces résultats obtenus par les deux candidats à Kungu, circonscription électorale de Guémena en province de l'Équateur ?» Et il cite, « Nombre d'électeurs attendus, 199 185, votants, 201 456, taux de participation, 101,14%, nul, 606, bulletin blanc 38, suffrage exprimé 200 812, candidat Bemba 200 225, candidat Kabila 586. Il pose alors cette question, faut-il parler de la manipulation des chiffres, de bourrage des urnes ou de fraude massive, orchestrée par l'Union pour la Nation dans cette circonscription? Madame Annie Salomon.
Oui, madame, j'espère que celui qui vous a écrit vous a annexé les bulletins de résultats, parce que si c'est une lettre qui n'a pas de preuves, je crois que c'est ce que nous condamnons au niveau de l'Union pour la Nation. Quand nous revendiquons, c'est avec preuves, et je crois que Dieudonné Mirimo, qui est en train de débattre avec moi ici, il peut vous dire que chaque document envoyé par le vice-président, il y a toujours des annexes, soit il y a les fiches de résultats et tout ça. Donc nous parlons avec des preuves à l'appui. Alors je reviens à ce que au premier intervenant là, qui se demande si nous sommes en train de protester. Moi, je voulais vous dire ceci, nos protestations, c'est sur base des faits réels. Et notre centre de compilation fait un travail de qualité. Nous avons les procès-verbaux. Nous reprochons. Ce que nous sommes en train de reprocher ici, c'est avec des faits et c'est vérifiable. Donc,
madame, vous n'avez pas répondu à la question de notre auditeur qui demande, avec les cas sous examen ici, qui demande s'il faut parler des manipulations des chiffres, de bourrage des urnes. Un autre encore, il dit ceci, il s'appelle Collé de Guémena, Équateur. En Équateur, demande si l'Union pour la Nation, etc., que la CEI annule les résultats de Guémena. S'il y avait une fraude qui n'a pas de nom ou qui n'est pas précise.
Est-ce qu'il a annexé la fiche des résultats ou c'est une lettre seulement? Parce que vous le faites fois. Moi, je crois que nous, c'est quand nous revendiquons, c'est avec preuve à l'appui. Nous annexons des fiches des résultats et tout ça pour montrer la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Parce que le travail qui se fait dans notre centre de compilation, ce n'est pas un travail à l'air. Donc, les documents dont vous faites allusion là-bas, je me dis, est-ce qu'il y a un document de la CEI qui l'a mis à l'annexe qui prouve que ce qu'il est en train de dire est vrai? Et même si c'était ça, si nous revendiquons, c'est parce que nous plaidons pour le changement. Nous estimons que ceux qui sont là, nous avons vu au premier tour comment ils ont triché à grande échelle. Et nous sommes des personnes averties à dénoncer le mal. Si eux, ils se complaient à rester dans le mal, si réellement de l'autre côté, on a vu qu'il y avait des problèmes à Guémena et qu'ils laissent faire, je me dis, c'est quel genre de personnalité qui veulent gérer cette nation?
Oui,
vous
madame,
des irrégularités, vous les laissez. Mais nous ne laisserons pas faire. Là où il y a des irrégularités, nous devons les dénoncer. C'est le changement que nous voulons sommet de l'État.
Oui.
Donc nous dénonçons avec des faits, vous voyez tous les documents du vice-président, il y a des annexes qui prouvent que réellement ce sont des faits vérifiables.
Oui, Monsieur Chérubin Okende, on a l'impression finalement que vous applaudissez tout ce que fait la commission électorale indépendante. Est-ce que vous n'avez pas remarqué certaines irrégularités ou vous n'avez pas à contester certains résultats publiés par la commission électorale indépendante déjà?
Madame, j'ai rappelé ici que nous devrons tous avoir ce devoir de loyauté. Je crois que ça a tout son sens et je ne pense pas qu'au niveau de l'Union pour la Nation, ils soient incapables de comprendre ce que ça veut dire devoir de loyauté. Il peut se faire qu'il y ait des observations à émettre par l'Alliance pour la majorité présidentielle, non représentants du moins, qui sont dans la commission mixte. Est-ce que pour nous devons faire la déventure pour dire, bon voilà, nous avions, disons, soulevé telle observation, que lorsque cette observation a connu le salut a été approuvé et par nos compatriotes de l'Union et par la commission électorale indépendante, que nous puissions simplement crier qu'il y avait des irrégularités ou imaginer des irrégularités, fantasmer sur les irrégularités. Je ne pense pas que ça soit correct. Mais ici, je voudrais franchement saluer la lucidité du peuple congolais à travers notamment nos compatriotes qui se sont exprimés. Parce qu'aujourd'hui, on peut manipuler un peuple un jour, mais pas tous les jours, ce n'est pas possible. Le peuple a sa lucidité, nous avons voulu avoir un scrutin transparent dans les normes, et aujourd'hui nous devons quand même reconnaître que la transparence de ce scrutin ne doit pas simplement rimer avec le fait que le candidat de l'Union pour la Nation a gagné de ce côté-ci. S'il ne gagne pas, il n'y a pas de fair play.
Vous laissez la charte des contestations aux membres qui participent à cette commission mixte.
En fait, parce que nous sommes organisés. Nous sommes organisés, nous recueillons tous les procès-verbaux, nous les analysons. S'il y a des contestations, nous n'allons pas faire des contestations dans la rue. Non, pas du tout.
Donc, vous n'en avez pas.
Mais si, je vous dis, il y a des observations pertinentes qui ont été faites.
Par exemple?
Je ne veux pas rentrer dans les chiffres ici parce que vous comprenez, il y a l'épée de Damoclès de la Haute Autorité des médias et même de la CEI. Nous voudrions encore une fois rester dans cette loyauté-là. Ceux qui ont autorité de pouvoir parler en notre place, en ce qui concerne les travaux de la commission mixte, ce sont nos représentants dans cette commission. Et donc, nous voulons vous dire ici que l'exhortation que nous pourrons faire au peuple congolais, hein, c'est de terminer ce processus dans la sérénité. En tout cas, nous avions dit sur vos antennes ici que certains compatriotes ont même la préméditation de la contestation. Et c'est ce qui serait beaucoup plus hypothétique pour le processus de démocratie.
Monsieur Chérubin Okende, nous allons évoluer. Monsieur Dédoné Mirimo, vous avez suivi ces auditeurs qui ont soulevé un cas comme ça. Ils nous ont envoyé ça sur Internet à Kungu. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, de ces cas-là?
C'est un cas parmi plusieurs cas. D'ailleurs, si les gens qui ont eu à consulter notre site Internet, ils peuvent bien constater les résultats qui ont été rendus publics par la CEI. Ça s'est affiché avec tous les détails, et même par bureau. Donc,
et il y a des cas où le pourcentage de participation est supérieur. Et cela serait expliqué par quoi? Comment est-ce que vous expliquez cela?
C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes, parce qu'à chaque circonscription, nous avions déjà des électeurs attendus après l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Donc il y a des personnes qui n'étaient pas prévues, qui ont pu voter dans cette circonscription-là. Et comme la commission électorale indépendante ne gère pas les contentieux, ces cas seront réglés par la Cour suprême des...
Vous avez l'impression qu'ils ont voté par dérogation?
Non, ce n'est même pas par dérogation. Je vous ai indiqué les catégories concernées par la dérogation conformément à l'article 59 de la loi électorale. Donc il y a eu plus d'électeurs par rapport à ceux qui se sont fait enrôler dans la circonscription.
Voilà, et nous allons évoluer de plus en plus dans les rues de Kinshasa. On attend des commentaires du genre. Comment comprendre que dans des villages de l'Est tels Walungu, Masisi, Rutshuru, il peut y avoir plus de votants que dans certaines villes? Comment comprendre qu'il y a autant de personnes alors qu'on nous avait dit qu'il y avait la guerre dans ces zones? Et autant d'autres commentaires encore qui remettent en cause le taux de participation dans ces contrées. Et certains de nos auditeurs abondent dans le même sens et se posent le même question qui que se posent de nombreux habitants ici dans les rues de Kinshasa. Par exemple, Mimi Moani, qui nous écrit de Lissala en Équateur, dit ceci: les résultats jusqu'à publiés ne reflètent nullement pas la réalité dans certaines contrées. Akilas de Lubumbashi au Katanga, je voudrais savoir la réalité sur le nombre de votants et celui des enrôlés. Au départ, nous avons appris que le taux de participation était faible comparativement au premier scrutin. Seul le Dekassai connaissait une participation élevée. Or, avec les résultats publiés, nous voyons qu'il y a des villages au nord et à l'est qui dépasse les Kassai. Comment expliquer cela? Alors, comment expliquer cela suivant des éléments de réponse dans cet entretien entre Claude Kienza et René Capita?
Bonsoir René Capita.
Bonsoir Claude Kienza.
René, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le poids électoral?
Écoutez Claude, le poids électoral est la part qui revient à chaque circonscription électorale sur l'ensemble de l'électorat national. Cette part est déterminée par le nombre de personnes enrôlées dans chaque ville ou chaque territoire. Elle peut être grande ou petite. Prenons l'exemple de la ville province de Kinshasa, avec presque 3 millions d'électeurs enrôlés. Elle représente à elle seule 11% du poids électoral de l'ensemble de la RDC. Mais il faut souligner aussi que certains coins du pays, sont très peuplées et ont beaucoup d'enrôlés. C'est le cas, par exemple, du territoire de Mahdi, dans la province orientale, qui, avec environ 373 000 électeurs enrôlés, représente 1,5% de l'ensemble de l'électorat national. Pour prendre un troisième exemple, la ville de Mbandaka, avec un peu moins de 120 000 enrôlés, représente 0,5% du poids électoral. Ces quelques chiffres permettent donc de comprendre que chaque ville ou chaque territoire ne pèse pas de la même façon parce qu'il n'y a pas le même nombre d'électeurs enrôlés.
René Capita, le poids électoral à lui seul peut-il permettre de comprendre ces résultats?
Je dirais non, Claude. Parce qu'à côté du poids électoral, il faut considérer aussi les taux de participation.
Et c'est quoi donc le taux de participation?
Les taux de participation, Claude, représentent les nombres d'enrôlés qui sont réellement allés voter. Par exemple, à Shabunda, territoire qui a la dimension du Rwanda, il y a un peu plus de 120 000 enrôlés. Au deuxième tour, un peu moins de 100 000 personnes ont effectivement voté. C'est beaucoup, Claude, car cela représente près de 82% des taux de participation. Les voix de Shabunda vont peser un peu plus, car ils ont été nombreux à aller voter.
Est-ce que c'est la seule chose à retenir concernant le taux de participation?
Non, ce n'est pas la seule chose à retenir du taux de participation, Claude. Parce qu'il faut savoir que dans les systèmes d'élection à deux tours, le taux de participation peut aussi varier. Tenez, au premier tour, 88 311 personnes sont allées voter dans la ville de Mbujimayi contre presque 244 000 au deuxième tour. C'est donc presque le triple des électeurs du premier tour.
Vous voulez nous dire par là que pour expliquer ces résultats, il faut combiner le poids électoral et le taux de participation?
Effectivement, Claude. Prenons l'exemple de Mbujimayi dont nous avons parlé plus haut. Sur environ 525 000 électeurs enrôlés, 244 000 ont effectivement voté. Alors que dans le territoire de Mahdi, qui a seulement 373 000 électeurs enrôlés, plus de 280 000 électeurs ont réellement voté. Quand on examine ces chiffres, on constate donc que le poids électoral de Mahdi va peser plus que celui de Mbujimayi, qui a pourtant beaucoup plus d'électeurs enrôlés.
Merci beaucoup René Capita.
Merci Claude Kendra.
Voilà les quelques explications et Monsieur Dédoné Mérimo, ce que vous avez simplement, vous avez également entendu parler de ces questionnements dans les rues de Kinshasa sur les villages qui ont plus d'enrôlés que les villes.
Oui, ça revient régulièrement, mais je crois que Claude Kianza et son collègue ont bien expliqué les éléments dont il faut tenir compte pour savoir exactement le taux de participation dans chaque circonscription. Il faut d'abord tenir compte des nombres d'enrôlés, c'est le premier élément, et aussi ceux qui se sont rendus aux urnes, mais les suffrages réellement exprimés. Donc ce sont ces éléments-là qui nous guident. Donc quand on revient pour dire que non, il y a eu 4 millions de morts à l'Est, et ceux qui sont morts avant. D'abord, nous devrions avoir une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés et qui ont payé de leur vie. Mais l'opération d'enrôlement, c'est après la guerre. Donc on ne peut pas tout le temps revenir sur ceux qui sont morts à l'Est. On a enrôlé sur l'ensemble du territoire national après la guerre. Et donc on ne peut pas opposer cela pour dire non. Comment expliquer qu'il y a beaucoup d'électeurs où le taux de participation est élevé à l'Est qu'à l'Ouest? Les élections exigent la précision. Donc il n'y a pas de tâtonnement. Lorsque nous allons sortir notre rapport après l'annonce des résultats, nous allons indiquer avec détail le nombre d'électeurs par bureau, par circonscription et le taux de participation sur l'ensemble du territoire national avec précision.
Oui, Monsieur Chérubin Okende, vous avez, certainement suivi ces petites discussions dans les rues de Kinshasa sur le taux de participation de telle ville ou telle autre comparativement à certains villages, ainsi de suite.
Oui, je ne vais plus revenir sur les notions de taux de participation parce que nos amis, ils ont magistralement présenté cela. Il faudra également dire que sur la place de Kinshasa, une certaine opinion tendancieuse voulait que là où il n'avait pas beaucoup de pronostics de vote, beaucoup de faveurs de vote, voulait donc voir que dans ces circonscriptions-là, le taux soit faible. Et cela, c'est pour réduire davantage les chances de l'autre challenger ou de l'adversaire politique dans cette course électorale. C'est pour cela que vous trouverez que, bon, on a beaucoup ergoté sur le taux de participation à l'Est sans avoir concrètement des chiffres de Congolais qui se sont rendus aux urnes au second tour. Vous trouverez également que pour la ville de Mbujimayi notamment, On a également salué un certain relèvement du taux de participation, mais en essayant de croire, de faire croire que le taux de participation de Mbujimayi, en s'améliorant, pourrait submerger d'autres circonscriptions. Là, ils ont oublié que le taux d'enrôlés au niveau de Mbujimayi ne pouvait pas changer. Parce qu'en fait, l'enrôlement ne pourront aller aux urnes que les compatriotes qui s'étaient fait enrôler. Donc je crois que nous, au niveau de l'Alliance pour la majorité présidentielle, nous avions pris la précaution prudente de ne pas nous perdre dans les chiffres, parce que nous savions que la réalité des urnes ne pourra être faite, ne pourra être, mise en exergue qu'après le dépouillement, qu'après ce que la haute autorité, la commission électorale indépendante est en train de faire sous la vigilance de nos témoins. Donc voilà, il faudra apaiser les compatriotes pour dire, d'ailleurs là je salue, parce que c'est la réponse que j'allais donner, ceux qui continuent à parler de mort de l'Est sans avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui sont morts par une guerre inutile, par surcroît, en disant que pourquoi à l'Est aujourd'hui il y a ce taux élevé de participation. C'est aussi un engagement citoyen que nos compatriotes de l'Est qui ont vécu les affres de la guerre, ils se disent non, nous voulons la démocratie plus que tout. Et voilà pourquoi ils se sont tous mobilisés, connaissant leur devoir civique de s'enrôler et aussi de participer au vote. Donc on ne peut pas, travestir cette vérité.
Oui, Madame Annie Salumou, vous avez également suivi ces nombreuses discussions dans le riz des Kinshasa. Quel est votre avis?
Madame, ce n'est pas seulement à Kinshasa, tout Congolais digne de ce nom qui veut que les votes soient les votes transparents et démocratiques, je crois que se préoccupe sur le taux de participation à l'Est. Il y a les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, qui ont fait les rapports et qui nous ont signifié que les taux étaient à la baisse, surtout au niveau de l'Est, en ce qui concerne le deuxième tour. Il est étonnant de voir qu'au moment de la publication des résultats, c'est le contraire que nous sommes en train de voir. C'est un taux vraiment à la hausse, parce que vous vous rappelez que nous avons pris beaucoup de précautions compte tenu de ce que nous avons vécu au premier tour. Il y avait les interahamwe qui ont voté pour un candidat. Il y a des gens qui ont traversé...
C'est vous qui les dites, Madame Annie Salumou.
Nous avons pris des précautions pour cette fois-ci que tous ces gens, des gens-là ne puissent pas venir voter, et ça a été fait. Ce qui veut dire cette fois-ci, on n'a pas signalé qu'il y a eu d'interahamwe qui ont voté, on n'a pas signalé qu'il y a eu des gens qui ont traversé, et la population elle-même était découragée de voir qu'au premier tour, elle avait voté autre chose. Si toi, au niveau de la députation nationale, elle avait autre chose, je crois qu'elle était découragée. Et nous avons des membres de famille là-bas. Moi, je suis de l'Est. Et nos membres de famille ont suivi tout de près. Nous sommes convaincus que le taux était à la baisse. Mais il y a quelque chose qui vient de se passer entre le moment d'affichage au bureau de vote jusqu'au moment de la compilation. C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Je crois que c'est tout Congolais digne de ce nom qui se pose la question de savoir le taux était à la baisse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des résultats, quand on les publie, que le taux est totalement vraiment à la hausse? C'est un problème.
Mais nous allons voir cela, Madame Annie Salumou, avec Monsieur Dédonné Mirimo. Monsieur Dédonné Mirimo, donc vous avez suivi. Il se pose toujours ces problèmes-là, ces taux de participation élevés à l'Est. Comment est-ce que vous allez l'expliquer, alors que, comme l'a dit Madame Salumou, certains observateurs parlaient déjà du faible taux de participation à l'Est?
Je venais de dire tantôt que les élections exigent la précision. Ces élections, nous les avons voulues libres, démocratiques et transparentes. J'ai donné les chiffres ici des témoins accrédités pour les deux candidats à l'élection présidentielle. 200 180 dans les 50 045 bureaux de vote. Donc nous supposons qu'ils étaient présents dans ces bureaux de vote et ils ont suivi les opérations jusqu'au dépouillement et à l'affichage des résultats. Donc, eux-mêmes pouvaient même compter le nombre d'électeurs qui se rendaient dans les bureaux de vote. Et lorsqu'on a affiché les résultats, ils peuvent les relever parce qu'ils signent, s'ils le veulent, les procès-verbaux. Ils pouvaient déjà dire, dans ce bureau ici, nous avons constaté qu'il y avait des intrigues qui ont voté ou des interambres comme Madame Annie, sans langage qu'elle, parce que d'abord, pour voter, il faut être électeur. Donc, s'il y a des interambres qui ont des cartes d'électeurs, nous avons déjà expliqué à son temps que les listes étaient affichées. Si quelqu'un avait des observations où il y a un étranger qui s'est fait enrôler, il pouvait être dénoncé parce qu'en définitive, nous avons radié sur la liste 292 353, y compris les étrangers, les militaires et les policiers. Et donc, en ce qui concerne ce taux de participation, dont nous indiquons que les élections ont été transparentes parce qu'il y avait même les observateurs et les journalistes dans le bureau qui peuvent constater ce qui s'est passé. Les résultats sont affichés au sortir des bureaux de vote. Les témoins
s'ils le veulent, accompagnent les chefs de centre de vote avec les plis vers les 62 centres locaux de compilation des résultats. Et à ces lieux-là, on invite les témoins des deux candidats à participer aux opérations du début jusqu'à l'affichage des résultats au CNCR.
Oui, Monsieur Dédoné Mirimo, nous allons évoluer. Il y a un dernier point. Certains d'entre nos auditeurs lisent les échanges des tirs près de l'une des résidences de Jean-Pierre Bemba dans la commune de la Gombe samedi dernier à la publication des résultats provisoires et partiels des actes de violence, rappelons-les, qui ont entraîné la mort de 4 personnes, dont 3 civils et 1 militaire. Et parmi ces auditeurs, nous avons Augustin Kita Genda de Goma Nord Kivu qui dit ceci: le secret des urnes est presque connu. Pourquoi, au lieu de faire preuve de maturité politique, nos politiciens usent de la violence alors que tout cela a comme conséquence des pertes en vies humaines? Un autre, Jospin Bouyamba de Lubumbashi au Katanga, dit ceci: à quoi est-ce que les accords quasi quotidiens nous avancent? Si nous avons le martyr de l'indépendance, nous ne voulons pas des martyrs des élections. 4 morts, c'est trop. Ne pouvait-on pas les éviter? Et notre encore, Grégoire Badibanga de Kananga, Kassai-Occidental: pourquoi ces publications provisoires des résultats semblent engendrer des traumatismes au pays? Cela veut-il dire que le peuple n'est pas d'accord avec ce résultat? Autant de questions, Madame Anissa Lumu, qui nous poussent à vous demander si ces mouvements de colère de la rue étaient provoqués en partie par le fait que l'Union pour la Nation conteste les résultats qui ont été annoncés par la Commission électorale indépendante.
Madame, je peux vous dire que le peuple lui-même se pose des questions de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est encore le premier tour. Quand le peuple parle du premier tour, c'est-à-dire des tricheries, des bourrages, des urnes, se réfère à cela. Le peuple ne se reconnaît pas dans ce qui est en train d'être publié là-bas. Et nous, en tant qu'Union pour la Nation, nous avons eu à le contester. Je vous ai dit en début d'émission ici les 5 lettres que notre candidat a envoyées à la CI. Nous avons de vrais résultats. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes. Il y a plusieurs organisations qui ont de vrais résultats. Et les vrais résultats, je crois que tout le monde les connaît. Ce n'est pas ce qu'on est en train de nous présenter là-bas.
Oui, voilà Madame Anissa Lumu.
Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions convoqué notre réunion, la plénière de l'Union pour la Nation, mais nous avons été là-bas séquestrés pendant des heures, des tirs sur nous. Moi-même, j'étais là à l'intérieur. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Nous apprenons qu'on dit que nous voulions proclamer là-bas les vice président gagnant, je me dis, et c'est comme ça que ça s'est fait. Nous respectons le texte, nous respectons notre signature. Je crois que la population congolaise a un problème, ne se reconnaît pas dans ce que la CIE est en train de publier.
Oui, madame.
Nous devons gérer l'opinion, nous écrivons pour dénoncer les anomalies.
Oui, madame Anissa Lumu, vous dites que vous avez des vrais résultats. Pouvez-vous éclairer nos auditeurs et nous dire quels sont ces vrais résultats?
Les vrais résultats, parce que nous avons notre centre de compilation. Je crois que s'il n'y avait pas toutes ces restrictions-là, notre candidat n'est pas en difficulté. Nous continuons à le dire jusqu'au moment où on nous parle, on a dépouillé autant de pourcentages de compilation. Notre candidat n'est pas en difficulté. Et le peuple congolais, connaissant pour qui il avait voté, c'est pour cela que le peuple est en train de se poser des questions et très préoccupé de voir que ce qu'on est en train de publier ne correspond pas à sa volonté, ne correspond pas au vote qu'il a eu à faire le 29 octobre. Voilà tous les problèmes. Nous avons les vrais résultats et beaucoup ont les vrais résultats, madame.
Oui, c'est vous qui le dites, Madame Anissa Lumu. Vous avez donc votre camp, l'Union pour la Nation a des vrais résultats. Un auditeur, il demande, Daniel Oanakialo de Bounia, province orientale, quelles garanties peuvent nous donner les deux camps pour la date du 19 novembre? Nous allons voir cela après ces réactions des auditeurs avec vous, Babel Mpongo.
Oui, nous commençons par J.P. Matipa de Boutembo Nord qui vous le dit aussi. Les résultats provisoires de la CEI nous ont révélé le futur président, car l'écart est vraiment grand. Le pourcentage qui reste à publier ne va pas influencer le résultat au point d'amener le second à dépasser celui qui est en tête. Kaindo de Beni Nord qui vous dit ceci: hier, c'était la polémique sur la façon dont la CEI publie les résultats. Aujourd'hui, c'est le fameux débat sur les irrégularités. L'Union pour la Nation doit savoir que ce n'est pas la CEI qui a voté, c'est le peuple. Dalkan Kulungu à Kinshasa pense que l'UN doit accepter avec courage les résultats au lieu d'inciter à la contestation. Thomas Mbiangando de Mbujimayi, Kassai-Oriental, dit ceci: que nos amis de l'UN sachent que nous avons besoin des résultats le 19, que l'UN cesse de distraire ou de freiner la CEI, car tous les deux camps avaient des témoins sur le terrain. Pour Joël Kass de Beni Nord Kivu, l'UN devait déjà se préparer à faire de l'opposition constructive au lieu de céder à la panique. Jackson Katembo de Kaina demande au vice-président Bemba d'être calme. Nous serons derrière lui dans 5 ans. Gilbert de Boutembonan qui vous toujours estime que la déclaration de l'UN n'a plus de valeur car l'arithmétique des résultats indique une nette différence de voix entre les deux candidats. Mais comme la soif du pouvoir est là, personne ne veut le reconnaître.
Voilà les quelques réactions des auditeurs, Monsieur Chérubin Okende. Nous commençons par vous et voilà.
Je salue la pertinence d'un de nos compatriotes qui a parlé de la maturité politique. Et tout le reste, tous les amis qui ont eu à intervenir, à envoyer leur SMS, leur message, ils prouvent réellement qu'ils ont de la maturité politique. Ce que nous voudrions relever là-dessus, c'est que, bon, lorsque on veut imputer au peuple, en disant au peuple, bon, écoutez, le peuple n'est pas d'accord, le peuple, mais de quel peuple on parle? Parce que nous venons des élections, il faut, dans les principes démocratiques, respecter le sens de la majorité. S'il y a une minorité qui n'a pas pu faire peser sur la balance, ben écoutez, le fair play voudra qu'on puisse respecter ce qui se fait dans la transparence aujourd'hui plutôt que d'avoir cette attitude que j'avais relevée de la préméditation de la contestation. Mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Kinshasa parce que je ne suis pas d'accord avec l'honorable Annie Salomon. Quand il dit c'était une réunion, non. En réalité, à Kinshasa, on a vu sur le boulevard du 30 juin quelques compatriotes manipulés ou quoi, je ne sais pas, qui ont commencé à barricader les routes, donc faire le trouble à l'ordre public.
Cette émission ne va donc pas faire donner des responsabilités qui a fait quoi. Ça revient à une autre commission mixte, je pense, à un groupe de travail qui est mis sur pied pour ça. Madame Annie Salomon, également brièvement, est-ce que vous pouvez répondre, réagir à ces opinions des auditeurs?
Oui, je crois que toutes les personnes interrogées doivent être les gens qui font partie de l'AMP. Et ça, c'est là où je me dis.
Nous ne les interrogeons pas, ils envoient leurs SMS.
Oui, oui, je crois que cette fois-ci, l'AMP a fait en sorte que ces gens puissent envoyer. Et la plupart de ceux que vous avez retenus, ça fait partie des gens de l'AMP. Mais j'espère que vous êtes en train de voir comment la population est en train d'être préoccupée, de voir comment on est en train de vouloir lui voler son vote. Et c'est pour cela que vous voyez tout ce qui est en train de se... C'est pas seulement dans la ville de Kinshasa. Tout le monde se demande. Moi, je me dis vraiment, qu'est-ce qui se passe que l'AMP toujours doit appuyer les irrégularités de la CEI. L'AMP n'a rien à redire dans ce qui se passe dans la CEI. C'est parce que je crois que l'AMP se retrouve dans toutes ces irrégularités-là. Et nous, nous sommes responsables. Nous, nous dénonçons les choses avec des preuves à l'appui. Et notre population, je crois, elle est tellement vigilante aujourd'hui qu'on ne peut pas la tromper. La population sait pour quelle personne elle a voté.
Vous l'avez dit, madame, nous passons maintenant la parole à monsieur Dédoné Mirimo. Donc, vous avez suivi également les réactions des auditeurs et les interventions de deux camps pour qui vous compilez les résultats des votes. Votre réaction?
D'abord, il est important que nous puissions rappeler qu'il y a eu plusieurs engagements qui ont été signés. Et parmi lesquels tous reconnaissent, et c'est la loi d'ailleurs, que seule la commission électorale indépendante aura à annoncer les résultats des élections qui ont été organisées. Chaque camp peut avoir son centre pour vérifier les différents résultats, mais il appartient à la commission électorale indépendante d'annoncer les résultats provisoires. Nous invitons donc aux uns et aux autres au calme et à la patience, parce que nous sommes presque à la fin. Avant le 19 novembre, tel qu'indiqué, nous allons annoncer les résultats, et donc il n'appartient pas à une autre institution de le faire ou de commencer à inciter la population pour dire qu'on a volé la victoire à X ou à Y. Les résultats que nous allons annoncer sont les résultats qui sont issus des urnes, la vérité du vote.
Et cela avant le 19?
Avant le 19 novembre.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités d'avoir accepté de répondre à ces nombreuses préoccupations de nos auditeurs. Au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, nous vous disons merci et au prochain numéro.
Okapi, okapi.